Deuxième moment ensemble. Vous êtes bien? Vous allez bien?
Oui.
Bien dormi?
Oui.
Alors c'est une joie d'être ensemble. Peut-être qu'il faut lever ça un petit peu plus. Si c'était possible ici. Alors pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas là hier on a commencé la série de 4 messages sur la prière. Et on a commencé à parler d'une définition de la prière. Et ensuite, on a vu une démonstration de la prière. Définition de la prière, Paul nous montre qu'une prière qui plaît à Dieu, elle est centrée sur l'Évangile. Elle est convaincue de la bonté de Dieu. Elle est toujours en train d'apprendre à connaître Dieu, inspirée par la connaissance de Dieu, et elle est lucide sur elle-même. Et ensuite, Paul nous fait entrer dans sa prière à lui. Et Paul parle de ce qu'on peut demander pour les frères et sœurs en tant qu'Église. Que Dieu nous rende forts, que Dieu, par l'Esprit Saint, nous permette de comprendre l'amour de Jésus-Christ et se rendre compte que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser. Et le but de la prière, finalement, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. On prie pour rendre gloire à Dieu. C'est ça le but ultime. Maintenant, deuxième message. Alors moi, j'ai trouvé un article dans l'Alliance Presse écrit par Marine Muller, une Française, et elle parle des activités qu'on fait dans une vie qui peut durer 60, 15, 80 ans. Et là, vous allez être surpris. Vous saviez, dans une vie de 75, 80 ans, combien de temps on peut se passer à se faire bronzer ? 2170 heures pour faire la bronzette. C'est incroyable ça, dans une vie. 2170 heures. Pendant une vie de 60-80 ans, 75-80 ans, une année à être malade. Ouh là là, une année au complet. 5 années sur Internet. Vous vous rendez compte ? 5 années sur Internet. 99 117 heures au travail. Ça, c'est plus de 11 ans dans une vie. Passer au travail, imaginez. 16 minutes. 16 minutes par an à se tromper de sens pour brancher un câble USB. 16 minutes par an. 23 214 heures à faire la lessive. Beaucoup, hein? 6 mois à faire la queue. 11 ans devant la télé. 11 ans. 2 ans à manger. 5 mois à se plaindre. 5 mois à se plaindre. Waouh!
Pour les garçons, pour les filles.
Il faudrait faire des recherches approfondies. 26 ans à dormir. Sur 80. Beaucoup, hein? 5 ans et demi à faire du ménage. Ça dépend de qui, là. 120 jours à faire pipi. 120 jours. Quand même. 16 ans à marcher. 3 ans passés dans sa voiture. Et 6 mois à attendre au feu rouge. Des choses qu'on fait dans la vie sans y penser et qui prennent beaucoup de notre temps, n'est-ce pas ? Hein ? On va passer un petit moment aujourd'hui dans la première lettre de Pierre, dans 1 Pierre. Et 1 Pierre, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est une lettre qui a été écrite à des croyants éprouvés, des croyants qui n'avaient pas la vie facile. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé ? Parce qu'ils croient en Jésus, ils ont été dispersés. Ils ont dû quitter leur pays, un peu comme les migrants aujourd'hui, à cause de leur foi. Ils ont été éparpillés aux quatre coins de l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Des chrétiens qui avaient une maison, une famille, un contexte, et là, ils doivent partir dans un pays qu'ils connaissent pas et éparpillés. Dur. La lettre de Pierre a pour but d'enseigner. D'enseigner à ces chrétiens dispersés comment ils doivent vivre en disciples de Jésus-Christ dans un monde qui est a priori pas très favorable à leur foi. Un monde hostile. Comment vivre au milieu des non-croyants? Et là, je pense qu'on peut très bien s'identifier à eux, parce que la plupart d'entre vous, je pense qu'au travail ou là où vous êtes sans doute pas parmi des croyants. Tout le monde n'est pas croyant. On comprend ce que ça veut dire. Alors, dans notre texte, Pierre va nous aider à réfléchir à ce qui occupe nos journées. Nous aider à réfléchir aux priorités que l'on a dans notre vie. Et donc, on va lire 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 11. 1 Pierre 4, 7 à 11. La fin de toutes choses est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable, soyez sobre et sage. Gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Verset 11. Que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Hein, à la fin des textes qu'on lit, apparemment, il y a toujours des amen. C'est très bien. Il faut s'exercer. Alors, le texte de 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. Alors, laissez aller votre imagination un petit peu. Imaginez cette scène, ce matin. Jacques. Pensez à Jacques. Jacques revient de chez son médecin. Une visite de routine. Mais Jacques est surpris. Parce qu'on vient de lui apprendre qu'il a un cancer en phase terminale. Ses jours sont comptés. Il n'a plus que quelques mois à vivre. Mettez-vous à sa place. Il pense à sa famille, il pense à sa maison, il pense à ses affaires. Comment est-ce que Jacques va remplir ses journées maintenant qu'il sait qu'il a peu de temps à vivre? Quels vont être ses projets puisqu'il n'a plus beaucoup de temps à passer avec ceux qu'il aime? Question importante. Alors, comme Jacques, nous aussi, quand on sait qu'il y a des échéances qui arrivent, par exemple un départ, un changement de travail, et peut-être même la mort, quand on apprend qu'on n'a plus beaucoup de temps dans un endroit particulier, avec des gens qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va à l'essentiel. On doit réfléchir à ce qui compte vraiment. Les choses qu'on choisit de faire à ce moment-là doivent être prioritaires. Pourquoi? Pas beaucoup de temps. Alors l'apôtre Pierre écrit dans sa lettre aux chrétiens dispersés d'Asie mineure et il leur rappelle une vérité importante. La fin de toute chose est proche. Et dans cette perspective-là, dans cette optique-là, il faut réfléchir aux choix qu'on doit faire. Évidemment, dans notre vie, il y a toutes sortes de fins. Avez-vous remarqué que la vie est faite de toutes sortes de petites ou grandes fins? La vie est comme ça. Et le mot fin peut produire toutes sortes de réactions quand on l'entend. N'est-ce pas? Vous entendez le mot fin? Et puis peut-être que il y a des fins qu'on redoute. Comme la fin des vacances, ou la fin d'un travail, ou la fin d'une relation qui nous est chère, une relation amoureuse ou d'amitié, ou la plus radicale des fins, la mort. Donc, il y a des fins que l'on redoute. Mais par contre, il y a d'autres types de fins, elles, on les attend avec impatience. Pensez-y. La fin de l'année scolaire. La fin d'une rage de dents. Oh, on a hâte, hein. La fin de l'hiver. Hein. La fin de toute chose est proche. Pourquoi est-ce que Pierre dit ça aux chrétiens dans 1 Pierre ? Ici, si Pierre parle à ses lecteurs de la fin, c'est pas pour les terroriser. C'est pas pour leur faire peur. Pourquoi ? Parce que la fin pour un chrétien, c'est un aboutissement. Hein ? C'est une délivrance. C'est l'espérance vivante qui se réalise. Être enfin avec Jésus, qu'on aime sans l'avoir vu. L'apôtre Pierre parle de fin ici dans sa lettre pour encourager les chrétiens qui sont éprouvés. La vie est dure pour eux. À tous les jours, c'est dur. Vous connaissez peut-être des gens comme ça. Peut-être que pour vous, c'est comme ça. Tous les jours, c'est dur. C'est difficile de se lever le matin, de faire face à une autre journée. Et Pierre, c'est comme s'il leur disait, et là je paraphrase, il leur dit, écoutez mes amis, tenez bon. Bientôt tout ça, ça va être terminé. Les persécutions, la souffrance, bientôt celui en qui vous croyez sans l'avoir vu, celui que vous attendez avec hâte, eh bien, bientôt, très bientôt, vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez tressaillir d'allégresse. Même si maintenant, il faut encore souffrir pour un peu de temps. Là, j'ai paraphrasé le verset 6 de 1 Pierre, chapitre 1. Un message donc d'encouragement, mais aussi un message pour enseigner, pour dire aux chrétiens éprouvés comment on doit vivre. Et il leur dit, eh bien voici quelles devraient être vos priorités puisque vous n'êtes pas appelés à vivre là où vous êtes pour toujours. Et c'est vrai pour nous aussi. Il faut apprendre comment vivre puisqu'on est des étrangers, des voyageurs, des pèlerins sur la terre. Le lieu où on est ici, vous le savez, ce n'est pas la destination finale. Le train continue. Et il y a une destination finale, mais ce n'est pas ici. C'est ça que Pierre leur dit. Et je pense que les exhortations de l'apôtre Pierre sont valables pour nous. C'est très important de les entendre, nous, aujourd'hui. Parce que si Pierre pouvait dire que la fin était proche il y a 2000 ans, imaginez, mes amis, aujourd'hui, à combien plus forte raison on doit se dire que la fin de toute chose est proche, nous qui vivons en 2016. Et même si Jésus ne revient pas de votre vivant, et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, l'idée que peut-être de notre vivant, Jésus puisse revenir, et là il vient du ciel, et nous qui sommes ses enfants, on va à sa rencontre, et on va être toujours avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui me donnait l'idée du changement qui va avoir lieu à ce moment-là. Il dit, c'est un petit peu comme un grain de pop-corn. Et là, tu le mets à la chaleur et il ouvre et pff, il est transformé en un instant, en un clin d'œil. Et là, on va être amené avec le Seigneur et on sera changé en un instant, en un clin d'œil. Pensez à cela. Le Seigneur revient, mais même s'il ne revient pas de notre époque, même s'il ne revient pas aujourd'hui, nous, notre vie aura une fin et ça va venir plus vite qu'on pense. La vie est courte, mes amis. C'était hier que j'avais 20 ans et j'en ai presque 60 aujourd'hui. C'était hier que mon enfant avait 1 an et maintenant il en a 24. La fin de toute chose est proche, mes amis. Et à la lumière de cette réalité-là, le texte que Pierre met de l'avant, c'est un texte qui nous parle des priorités. Puisque la fin est proche, quelle est selon Pierre la priorité des priorités? Et Pierre dit, c'est la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Étonnant, non? Si vous êtes comme moi, peut-être que vous vous dites, bah, c'est peut-être pas ce que moi j'aurais conseillé à quelqu'un à qui il reste que peu de temps à vivre. Hein? Aujourd'hui, j'aurais dit, bah, écoute, mon gars, t'as 2 ans à vivre. Eh ben, accomplis tous tes rêves. Vas-y, fonce. Fais tout ce que t'as envie de faire. Et là, activité après activité, on n'en manque pas une. Et Pierre lui dit, la fin de toute chose est proche. Priez. Priez. Étonnant. Priez. Il y a une étude de l'Alliance évangélique américaine qui a été faite. Et voici ce qu'on a découvert au sujet de la pratique des chrétiens évangéliques aux États-Unis. Ça révèle que les chrétiens évangéliques ont du mal à trouver du temps pour prier. Ça vous étonne ? Est-ce que ça nous ressemble aussi ? Je pense que oui. Alors, sur les 1500 chrétiens sondés, 90% des chrétiens disent lire leur Bible régulièrement. Ah, ça va. Ils lisent leur Bible. Et là, par rapport à la prière, pour pouvoir mettre à part un temps substantiel pour prier, on passe de 90% à 31%. 3 fois moins de chrétiens trouvent du temps substantiel pour prier. 87% de ces chrétiens reconnaissent que la prière doit faire partie de leur vie de piété, que sans la prière, leur foi va souffrir. Ça, c'est 87%. Mais entre savoir et faire, il y a une grande marge. La majorité des chrétiens disent « oui, il faut prier », mais seulement 31% prient en réalité. 60% affirment prier à la sauvette. Quand ils marchent dans la rue ou dans les transports, vite fait comme ça, gagner un petit peu de temps et on va prier. 49% des chrétiens américains disent « quand on prie, on a juste le temps de demander à Dieu de bénir la famille. Seigneur, bénis ma famille. » Ah, 49%. 63% reconnaissent être distraits pendant leur moment de prière. Une mouche, le téléphone, Internet, je sais pas. 63%. Et selon ce sondage, les personnes nées avant 1960... Ça me concerne. D'après le sondage, ces personnes seraient plus disciplinées que les plus jeunes pour faire leur culte personnel. Est-ce que c'est vrai ? Aux États-Unis, je ne sais pas si c'est vrai ici. Mais en tout cas, vous voyez que la prière, pas évident. Pourquoi ? Comme on l'a vu dans le clip là tout à l'heure, prier c'est à contre-courant, mes amis. C'est à contre-courant de notre société. On vit dans une époque de l'activité, du faire. Et votre vie doit être comme ça. Dans votre vie, les activités ne doivent sûrement pas manquer. Je pourrais vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ou dans une journée normale ? Et là, je suis convaincu que les activités ne manquent pas. Si on voulait, mes amis, s'occuper 24 heures sur 24... à faire toutes les activités qu'on peut dans une journée, il y aurait évidemment beaucoup de choses à faire. Et je ne pense pas qu'on aurait trop de mal à remplir notre emploi du temps. Qu'est-ce que de quoi nos journées sont faites ? Il y a le travail, il y a les études, il y a la famille, il faut faire les courses, il faut participer à tel ou tel club entre amis, il faut s'occuper un peu des réseaux sociaux, il faut s'impliquer dans la ville et des sorties, évidemment. Et si on est chrétien, bien, il y a les activités de l'Église. Beaucoup de choses à faire. Et en plus, prier. En plus, prier. Mais quelle importance a donc la prière pour que Pierre en fasse une priorité ? Quelle est l'importance de la prière ? Pensez-y. La prière, c'est à la base de la relation avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Réfléchissez. C'est dans la prière qu'on saisit le salut par la foi en Jésus. Une des premières choses qu'un nouveau converti fait, c'est prier. Prier, c'est encore comme ça qu'on entretient notre communion avec Dieu, au jour le jour. Par la prière, on parle à Dieu, on lui exprime notre reconnaissance, on l'adore, on lui fait connaître nos besoins. Et la prière, selon Jean Calvin, c'est le lieu privilégié où la foi s'exerce. On dit qu'on a la foi, on veut exercer la foi, et Calvin lui dit, ben c'est la prière en premier que ces choses-là se font. La foi, sans elle, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vous avez lu Hébreux 11, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Le nouveau style de vie d'un chrétien, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. On peut comprendre pourquoi Pierre met un accent très fort sur la prière, une priorité. Le lieu où s'exerce la foi. Question pour nous. Quelle part de notre temps vivons-nous devant Dieu ? Quelle part de ton temps vis-tu devant ton Dieu ? Quelle part de ton temps as-tu avec lui pour que sa compagnie transfigure ta réalité ? Parce que c'est dans la présence de Dieu, nous qui contemplons son visage, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Du temps avec Dieu pour que ce temps-là transfigure notre réalité. Honnêtement. Si vous êtes comme moi, on doit avouer que ce n'est pas seulement les Américains qui ont du mal à prier, non ? On a du mal à prier. Pas vrai ? On a du mal à prier. C'est difficile. Mais savez-vous quoi ? L'apôtre Pierre nous comprend. L'apôtre Pierre n'ignore rien de cette difficulté. Rappelez-vous, Pierre, au jardin de Gethsémané, Pierre, le jeudi avant la mort de Jésus. Rappelez-vous, Christ lui a demandé de prier avec lui 3 fois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pierre s'est endormi. Dur de prier. Il y avait Jésus là, les gouttes de sang. Jésus qui priait, Jésus qui faisait face à la croix. Jésus qui demande à Pierre, prie avec moi. Il s'endort. Dur. Pourquoi c'est dur de prier ? Pourquoi ? Depuis Genèse 3, mes amis, depuis la chute d'Adam et Ève, il y a plein d'obstacles, pas seulement extérieurs, mais dans notre cœur, qui viennent entraver la relation avec Dieu. C'est une réalité, le péché a rendu ce qui était naturel et agréable et bienfaisant, le péché a rendu cela difficile et laborieux. La prière est devenue difficile et laborieuse parce qu'il y a du péché dans notre cœur. Et ici, dans sa lettre, Pierre nous indique 2 obstacles qui risquent d'empêcher les chrétiens d'accorder à la prière la place qu'ils devraient. 2 obstacles. Premièrement, le manque de sagesse qui nous amène à vivre une sorte de désordre dans nos priorités. Et deuxièmement, le manque de sobriété qui nous amène à avoir une vie encombré. On va les voir un après l'autre. Manque de sagesse qui nous amène à avoir du désordre dans notre vie. Papa. Qu'est-ce que le manque de sagesse va produire devant nos vies ? Eh bien, toutes sortes de priorités mélangées. On va avoir du mal à ordonner nos vies de manière à ce que la prière soit possible. Regardez vos vies. Regardez. Moi, je peux regarder la mienne. Comment mettre de l'ordre dans sa vie pour prier ? Quand tout semble plus urgent dans ma vie que la prière, comment faire pour redonner à la prière la place qui lui revient ? Il y a quelqu'un qui a dit, le temps pour prier, on ne le trouve pas par hasard. Le temps, enfin, il se prend. si on veut pouvoir prier, ça ne va pas tomber sur nos genoux par hasard. Il faut prendre ce temps-là. Martin Luther disait que plus il avait de choses à faire dans une journée, plus il avait besoin de prendre du temps pour prier. C'est paradoxal. Nous, on peut penser que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas prier. Mais Luther disait, moi, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui que je vais prier encore plus. Pour que Dieu me donne de l'efficacité dans ce que je fais. Soyez sages en vue de la prière. Pensez maintenant aux apôtres. Pensez aux apôtres. Après la Pentecôte, alors que leur charge de travail augmentait, il y a eu 3000 conversions, il y a eu des baptêmes, et ensuite il y en a eu 5000, et au chapitre 6 de Actes, les apôtres se trouvent devant une situation où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ils ont pris des mesures précises, les apôtres, pour continuer à prier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont nommé des diacres et ils se sont dit, nous, on va pas faire ce travail-là, les aux tables, parce qu'on veut consacrer notre temps à la prière et à la parole. Priorité pour les apôtres. Ils ont pas voulu que quoi que ce soit vienne leur voler leur temps de prière. Jésus lui-même, il soignait sa relation avec Dieu. Il prenait beaucoup de temps dans la prière, vous le savez, vous avez lu les textes. Et pour lui, le dialogue avec Dieu avait trop d'importance, trop de prix pour le négliger. Et ça, c'est sage. Soyez sage en vue de la prière. Question pour nous ce matin. Quel prix accordons-nous à notre relation avec Dieu ? Quel prix accordons-nous à notre relation avec Dieu ? Soyez sage pour vaquer à la prière. Alors comment on fait ça ? Pour accorder à la prière la place qui lui revient, il faut savoir mettre de l'ordre dans sa vie. Le fait de ne pas avoir de temps pour la prière, c'est parce qu'il y a du désordre souvent dans notre vie. Mettre de l'ordre, ça veut dire quoi ? Accorder aux choses premières la première place. Déplacer des choses secondaires et les mettre à la place où elles doivent être. Être sage pour reconnaître que telle habitude qui prend beaucoup de temps dans ma vie ne devrait pas avoir cette place. Sage pour admettre que la prière que peut-être j'ai reléguée au bas de ma liste de priorités, s'il me reste un petit peu de temps à la fin de la journée, que la prière devait être au top de ma liste. Sage. Vous voyez, il y a une inversion de priorité souvent dans ma vie. Ce que je considère comme peu important, Dieu dit, ça va au top. C'est très important. Et c'est la prière. Soyez sages, ordonnés pour vaquer à la prière. Et deuxième point que Pierre fait ici. Soyez sobres, un gros défi. Il ne s'agit pas ici de changer l'ordre des priorités, mais d'enlever ce qui est de trop. Être sage, ça veut dire mettre de l'ordre. Être sobre, ça veut dire élaguer. Le manque de sobriété, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, cette idée-là. Mais quand on pense peut-être à la sobriété, en tout cas moi je pense comme ça, on pense à quelqu'un qui abuse de l'alcool ou de la drogue. Quelqu'un qui a bu, on dit, il n'est pas sobre. Hein? Il y a un sens où c'est comme l'alcoolique qui a trop bu, qui doit apprendre à redevenir sobre. Il y a un sens où, dans nos vies, il faut se sevrer du trop. Et vous pensez à ça ? Notre génération doit se sevrer du trop. On vit dans une culture de consommation où plus, c'est toujours mieux. Vous avez entendu ça ? Les pubs ? T'en mets un peu plus, c'est mieux. C'est toujours mieux, plus. Plus, 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 plus. Plus d'activités, plus de gadgets, plus de tout. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Notre vie est encombrée. Il n'y a plus de place pour la prière. C'est vrai qu'on a des responsabilités qu'on doit remplir, hein. au jour le jour, on est occupé, il y a des choses, on ne peut pas s'empêcher de les faire, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que ce n'est pas ce qui est nécessaire de faire qui encombre nos vies. C'est tous ces petits extras qu'on ajoute et qui ne sont pas nécessaires. Et Pierre, dans ce texte, veut nous ramener à un style de vie plus simple. Apprenons à vivre plus simplement. Est-ce que aujourd'hui dans notre vie, on aurait besoin d'être sevré de certaines activités parasites? Est-ce qu'il y a dans votre vie des activités parasites? Pensez-y. Des activités qui prendraient trop de place et qui deviendraient envahissantes. Un petit peu comme les mauvaises herbes dans votre jardin. Il y a des activités parasites. Peut-être trop de télé, peut-être trop d'internet, peut-être trop de sorties, peut-être trop d'activités d'église même. Et on ne prie plus. Et l'apôtre Pierre dit « Soyez sobre, soyez sobre. » On doit pouvoir désencombrer sa vie pour consacrer du temps à la prière. Et bien souvent, si on creuse un petit peu par rapport à notre vie, on découvre que si on ne prie pas, c'est qu'on est inutilement surchargé. On a un emploi du temps rempli d'occupations futiles parfois. Il faut bien l'admettre. On n'a plus de temps pour réjouir le cœur de Dieu, pour passer du temps dans sa compagnie. Et si on comprenait à quel point Dieu aime qu'on vienne dans sa présence pour prier, si on pouvait comprendre le plaisir que Dieu trouve à nous voir venir dans la prière, la joie que lui-même trouve Dieu quand on s'arrête pour le prier. Si on pouvait comprendre ça. Donc, le point ici important, c'est d'apprendre à vivre une vie plus simple, plus dépouillée, de revenir à l'essentiel. Soyez sobre pour vaquer à la prière. Dans d'autres traductions, au lieu de dire « soyez sage, soyez sobre », les textes disent d'être raisonnable, d'être équilibré, d'être éveillé. C'est comme si l'apôtre Pierre laissait entendre qu'il y a une manière de vivre qui est déraisonnable et qui nous amène à nous endormir. Il y a une manière de vivre qui fait qu'on va s'endormir. On est alourdi. Ça nous empêche de prier. Et pourtant, Pierre, il dit, s'il y a un moment où c'est important de prier, c'est à notre époque. C'est maintenant. Levez les yeux, mes amis. La moisson est blanche. Il faudrait implanter 3 fois plus d'églises à notre époque pour pouvoir commencer à atteindre la France. Ça, c'est une raison de prier. Levez les yeux, regardez ce qui se passe. Le terrorisme, les problèmes environnementaux, la crise des migrants. Pierre nous invite à considérer notre époque. Et Pierre nous dit la priorité, c'est la prière, mes amis. On doit prier en face de défis aussi importants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous de vous endormir au moment le plus important d'un film. Est-ce qu'il y a des enfants ici? On regarde un film, c'est super. Et là, on devrait regarder jusqu'à la fin et puis on s'endort. Au moment où l'intrigue va se dénouer, au moment où tu vas découvrir qui a commis ce terrible crime, grand moment de suspense. Un moment qu'on attend depuis les tout débuts du film. Tout le film mène à cette scène et puis voilà que vous êtes là et au lieu d'être à fond dans l'intrigue, vous ronflez. C'est un peu ça que Pierre nous dit ici. C'est de ça qu'il s'agit ici. Pierre, dans sa lettre, nous dit que notre époque est comme ça, comme ce moment où il faut être attentif, il faut être disponible, il faut être hyper concentré pour prier. C'est pas le temps de ronfler, C'est pas le temps de dormir. Il faut prier. Prendre conscience de l'époque dans laquelle on vit. La nécessité de prendre l'exhortation de l'apôtre Pierre au sérieux. Être sage, être sobre, mener une vie ordonnée, équilibrée, dépouillée, simplifiée. Pour prier. Pour prier. Et dans la suite du texte, Pierre va mettre au cœur de la vie communautaire deux choses importantes. Versets 8 à 11. Il va parler de l'amour, l'amour qui nous rend hospitaliers, et il va parler des services, les dons mis au service de l'Église. Exercer l'hospitalité, mettre en œuvre les dons spirituels pour que l'Église soit édifiée. Eh bien, dans ces domaines-là aussi, la prière joue un rôle central. Prier pour que les chrétiens s'aiment entre eux. Prier pour que les chrétiens utilisent leurs dons. Et imaginez, si les chrétiens commencent à faire cela, la différence que ça va faire dans nos églises. Et pour le témoignage, l'Église va pouvoir jouer son rôle prophétique dans le monde et à notre époque comme elle doit le faire. Vous vous rendez compte à quel point la prière est importante? Alors à la fin du message maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse à ce qui nous empêche, nous, aujourd'hui, de donner à la prière la place qui lui revient. J'aimerais qu'on prie que Dieu nous aide, nous, en tant qu'Église, en tant que personne, à être sages et sobres pour vaquer à la prière, pour s'adonner à la prière, pour être intentionnel dans ce domaine-là. Priez. Amen. Et prions maintenant. Seigneur, tu nous as fait vivre dans cette génération. Et Seigneur, tu nous montres les enjeux de notre époque, de notre temps. Tu nous fais voir les grands défis. Et Seigneur, nous sommes pris dans un tourbillon, il y a tant à faire. Et Seigneur, nous avons besoin d'être sages et sobres. Nous avons besoin d'être sevrés du trop, apprendre à vivre des vies plus simples, mais vraiment concentrés sur l'essentiel. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes nous aider à mettre de l'ordre dans nos priorités pour que tes priorités à toi ne soient pas au bas de notre liste à nous. Que nous puissions aligner nos priorités aux tiennes, Seigneur. Oh Seigneur, viens nous aider. On a besoin de rester éveillés à ce temps-ci de l'histoire du salut, à ce moment précis, Seigneur, où il y a tant de besoins. Viens, Seigneur, aider tes enfants et ton Église au nom de Jésus. Amen.